Chapitre 17. Le tricheur. Sauvé. Enfin, presque. Parce que Pépé, à son tour, avait disparu. Mathilde et moi, nous attendîmes près d'une heure enfermés dans ces lavabos avant de risquer une sortie en tremblant. Les visiteurs étaient partis depuis longtemps, mais Pépé restait introuvable. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont enlevé? Demanda Mathilde d'une voix mal assurée. Je ne sais pas. Tout ça ressemble à un cauchemar. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Attendons le matin. On décidera après. Je crois que je n'arriverai jamais à dormir. Si ces hommes revenaient, ils ne reviendront pas. De toute façon, on veillera à tour de rôle. Nous nous installâmes à nouveau dans la chambre à coucher, le seul endroit du palais qui soit à peu près rassurant. Il faisait glacial, et Mathilde frissonnait. Je l'obligeai à prendre mon pull marin. Moi, j'avais un blouson bien épais. De toute manière, je n'arrivais pas à rester en place. Tandis que Mathilde s'était allongée sur le petit lit, je déambulais dans la pièce, tenaillé par le remords et l'inquiétude. Je me rappelais comme je m'étais moqué de Pépé et l'air bêtement suffisant que j'avais eu pour lui dire qu'avec moi, il n'avait rien à craindre. Depuis le début, je m'étais conduit de la pire manière. Ce concours, d'abord, puis mes initiatives ridicules pour épater Mathilde, comme de nous lancer à la poursuite de l'inconnu du train ou de squatter de nuit un musée italien. À cause de moi, Philibert était arrêté à Paris. On avait kidnappé Pépé et nous étions dans une mélasse noire. Il n'y avait vraiment pas de quoi être fier de s'appeler Pharamond. Tu crois vraiment qu'il risque quelque chose? Murmura Mathilde. Bien sûr que non. Dors maintenant. Sa voix me parvenait de très loin, la lueur blême de la lune tombait sur le lit. J'apercevais sa petite forme sombre, ses deux yeux grands ouverts, brillants comme ceux d'un chat. Peut-être a-t-il réussi à s'échapper, lui aussi. De toute façon, ce qui arrive est ma faute. Jamais je n'aurais dû proposer de passer la nuit dans le palais. Nous étions tous d'accord, protesta-t-elle. Non, sans moi, rien de tout cela ne serait arrivé. J'avais repris mes 100 pas, évitant de la regarder. Il faut que je te dise quelque chose, Mathilde. Cela me soulageait de lui parler. La franchise n'est pas mon fort. Mais j'avais cette histoire sous le cœur depuis le départ. Maintenant que Pépé n'était plus là, tout semblait plus facile. C'est ce concours. J'ai triché pour gagner. J'ai un oncle, il s'appelle Firmin. Il est agent de mairie. Alors quand il a entendu parler du concours, tu comprends, ça lui a été facile. Il s'est arrangé pour avoir les sujets à l'avance. Moi, comme un idiot, j'ai quand même réussi à mélanger des dates. Pour un peu, je ne partais pas. Mathilde ne disait rien, mais le plus dur était fait. Le pire, c'est que sans moi, c'est Philibert qui partait, mon meilleur copain. Il a travaillé pour ce concours comme une brute. Le jour des résultats, il m'a dit: Je suis vraiment content pour toi, Rémi. Rapporte-moi un truc ou deux de là-bas. Il était vraiment sincère. On aurait dit qu'il était presque aussi heureux que si ça avait été lui. Il m'a même passé le sac qu'il avait acheté exprès, histoire qu'il serve à quelque chose. Si j'avais su que ça devait retomber sur lui, je n'aurais rien fait. Mais je pensais qu'il n'avait aucune chance. De toute façon, c'était trop tard. Je me voyais mal lui dire que j'avais triché, que c'était sa place, que je m'étais conduit comme le dernier des derniers. Derrière moi, Mathilde se taisait. Mais je savais qu'elle comprenait. Elle fait partie de ces gens à qui l'on a envie de parler quand ça va mal. Après, on se sent plus léger. En fait, tout le contraire de ma mère. Discuter avec ma mère, c'est un peu comme partir en voyage. Elle a toujours peur de quelque chose. Rajoute des pulls, des mouchoirs, des numéros de téléphone, bourre mon sac de ses inquiétudes jusqu'à ce que j'explose et que ça finisse mal. En même temps, je ne peux pas lui en vouloir. Ça finit par m'achever parce que je me trouve encore plus moche de lui faire de la peine. Le jour où elle a su que j'avais gagné le cours, par exemple, elle a sorti une bouteille de mousseux et a invité l'oncle Firmin à un dîner. J'ai passé la pire soirée de ma vie avec elle qui rayonnait, qui cherchait des vues de Venise dans les photos de son voyage de noces, et mon oncle Firmin, un peu ivre, qui m'adressait des clins d'œil par-dessus son verre et ne cessait de porter des toasts. Qu'est-ce qu'il y a, mon Rémi, le gâteau ne te plaît pas? S'inquiétait ma mère. J'avais honte de sa fierté, de cette marquise au chocolat qu'elle fait à chaque anniversaire, décorée de pralines et de poudre de cacao, parce que c'est mon dessert préféré. La télé marchait en sourdine et, à la fin, on s'est planté devant, mon oncle et moi, pendant qu'elle débarrassait tristement les restes de la fête. Ça, je ne pouvais le raconter à Mathilde. Je les envie parfois, elle et Pépé, d'avoir une famille simple, sans oncle Firmin pour chanter à table et truquer les concours, et une mère qui renifle à la cuisine, et un père qu'on sort au dessert sur les albums de photos. Chacun, sans doute, n'a que ce qu'il mérite, mais je rêve souvent que je suis dans mon lit le matin et que j'entends mon père qui se rase derrière le mur de la salle de bain. Je ne sais pourquoi, mais l'idée de ce bruit me met alors les larmes aux yeux. À la fin, je me suis retourné vers Mathilde. Je n'avais jamais autant parlé depuis la communion de ma petite cousine. La cigarette me donnait mal à la tête et je me sentais vide. Je me suis approché du lit. Mathilde ne bougea pas. Elle avait glissé sous sa joue un bras replié et dormait paisiblement, recroquevillée dans son caban. Depuis quand dormait-elle? Impossible de le dire. Je me suis assis à côté d'elle à ressasser tout ça. Au matin, nous filâmes par une fenêtre en oubliant le bagage dans le placard à balai.